Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, faut-il un tribunal spécial pour juger les terroristes ? Que faire des djihadistes français partis combattre aux côtés de l'État islamique avant d'être capturés ? La question n'est pas nouvelle, la réponse est connue, la France ne veut pas les rapatrier. Plusieurs d'entre eux détenus par les forces kurdes en Syrie ont donc été transférés vers l'Irak pour y être jugés. Alors, si les autorités françaises pensaient s'être débarrassées à peu de frais de ce dossier, elles se sont lourdement trompées. La justice irakienne vient de condamner à mort 11 de ces combattants français. Or, la France a aboli la peine de mort et elle s'oppose à l'extradition de ressortissants étrangers lorsque ceux-ci viennent d'un pays où la peine capitale est encore appliquée. Face à ce défi juridique auquel d'autres pays, européens notamment, sont confrontés, pourquoi ne pas créer un tribunal international chargé de juger ces djihadistes sans déroger au principe de l'état de droit ? C'est la question qui était évoquée hier à Stockholm, en Suède, en présence d'une dizaines de pays européens, un tribunal qui pourrait s'inspirer de ce créé après la guerre en ex-Yougoslavie ou après le génocide au Rwanda, mais il supposerait de fixer une définition juridique du terrorisme qui soit largement partagée, ce qui est tout sauf simple. Alors faut-il un tribunal spécial pour juger les terroristes ? C'est la question du soir en compagnie de trois invités. Muriel Ubeda-Sayar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur agrégé des universités, spécialisé en droit international. Vous dirigez le Master 2 Justice pénale internationale à l'Université de Lille et vous avez publié l'an dernier aux éditions Pédone La souveraineté pénale de l'État au XXIe siècle. Pour discuter avec vous, Patrick Baudouin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, président d'honneur de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Vous demandez à ce que les djihadistes français soient poursuivis pour crimes contre l'humanité. Vous aurez évidemment l'occasion de nous expliquer pourquoi. Et puis, troisième invité, Antoine Mégy, bonsoir.
Bonsoir.
Politiste, maître de conférence à l'Université de Rouen. Vous travaillez sur les procès pour terrorisme. Vous avez publié, avec notamment notre consoeur de France Culture, Florence Sturm, c'était en mars dernier aux éditions La Martinière, chronique d'un procès du terrorisme. En l'occurrence, il s'agissait du procès Merah. Alors, 11 Français, je le disais en ouverture, ont été condamnés à mort en Irak pour des faits de terrorisme. Est-ce que d'ailleurs, Antoine Mégy, c'est une situation judiciaire inédite pour des ressortissants français ?
Alors, c'est une situation inédite pour les ressortissants français dans le cadre de ce qu'on va appeler le conflit irako-syrien et de ce qu'on appelle les filières de Daesh. Mais cette question de l'extradition, en fait, elle est centrale dans ce qu'on va appeler la lutte contre le terrorisme en Europe. Et cela depuis les années 70, voire les années 80, où on avait déjà cette question de l'extradition de ceux qu'on appelait les brigadistes rouges entre l'Italie et la France. Et l'adoption d'une doctrine politique par François Mitterrand d'expliquer que ces personnes qui avaient rompu avec cet engagement politique et qui n'avait pas commis de crimes de sang, pouvait trouver une forme d'asile politique en France. Donc on voit que la France avait changé cette fois-ci de position et qu'elle s'instaurait dans le débat des années 70-80 sur la violence terroriste d'extrême gauche comme finalement une terre d'asile. Donc on voit que les positions diplomatiques peuvent alterner en fonction des époques. Donc la question de l'extradition, elle est quand même assez centrale depuis très longtemps, notamment sur la dimension des combattants étrangers, y compris dans les années 30, par exemple, où on a des procès, où on a des débats politiques très intenses.
La France a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas que ces combattants reviennent sur son territoire. Est-ce que ça pose un problème du point de vue juridique ou bien est-ce que c'est avant tout une affaire de principe, un débat sur le fait de savoir si, à partir du moment où ce sont des ressortissants français, ils doivent ou ils peuvent ne pas être jugés en France. Muriel Ubeda-Sayar.
Oui, mais en fait, ça pose la question du juge naturel en droit pénal. Hein. Est-ce que le juge naturel, c'est le juge de la nationalité des auteurs présumés des infractions, auquel cas ce serait le juge français ici, pour les présumés terroristes français, ou est-ce que le juge naturel, c'est le juge compétent territorialement ? Et évidemment, je crois que on partage tous autour de cette table la préoccupation aussi de la réparation apportée aux victimes. Et dans la question qui est posée sur le juge naturel, il y a cette question. Quel est le meilleur procès pour apporter une réparation pleine et entière aux victimes ?
Ça suppose. Il n'y a pas de texte qui permette de trancher qui, en l'occurrence, serait le juge naturel.
Non, on a une coordination.
Le plus pertinent, disons.
Non, on a une coordination des souverainetés ici. Vous disiez qu'évidemment la France réaffirme régulièrement son rejet de la peine de mort et donc ça pose problème. Hein. Les condamnations irakiennes posent problème, mais en même temps, la France, elle est coincée entre le marteau de ce rejet rejet de la peine de mort et l'enclume de la souveraineté irakienne et donc du respect du système juridique de l'Irak, quel qu'il soit. Ça invite à un relativisme juridique quand même.
Et dans ce débat, comment est-ce que vous vous positionnez, vous, Patrick Baudouin?
Oui, effectivement, il y a ce qu'on peut appeler une double compétence. Il y a la compétence de l'État irakien, puisque les crimes ont été commis sur le territoire irakien, et encore qu'on peut discuter, oui. Puisqu'aujourd'hui, ce sont des crimes qui ont plutôt été commis en Syrie, et on a une sorte d'extradition ou de rapatriement de djihadistes français et autres d'ailleurs du fait d'une coalition des forces comment on peut dire kurdes syriennes bien
donc à ce sujet d'ailleurs le premier ministre irakien dit de toute manière même si c'était en Syrie il y avait un seul champ de bataille qui était l'Irak et la Syrie et donc la question ne se pose pas
c'est ce qu'il dit lui mais voyez à quel point on peut déjà discuter parce que jusqu'à preuve du contraire la Syrie c'est un État et l'Irak un autre et les territoires sont différents. Mais passons outre ce premier point. Il y a une compétence, a priori, de l'État irakien pour juger sur son territoire. Et puis, il y a aussi une compétence française, puisque ce sont des ressortissants qui ont la nationalité française, qui vient très bien d'être expliqué. Alors, pourquoi y a-t-il un problème à les juger en Irak, puisqu'il y a une compétence de la justice irakienne? Simplement parce que il y a quand même un principe de droit international qu'on retrouve dans les conventions, qui est le respect du droit au procès équitable. Alors le procès équitable, je sais bien que M. Le Drian a essayé de nous démontrer que les procès étaient équitables, c'est quand même assez grotesque, il faut quand même le souligner. Car qu'est-ce qui se passe? Il y a des instructions bâclées, il y a des personnes qui sont détenues dans des conditions où elles ont des mauvais traitements, voire des tortures, elles n'ont pas l'assistance d'un avocat, sauf quelques minutes au moment du procès, et les procès sont totalement expéditifs, puisqu'en une demi-heure, voire une heure, on condamne à la perpétuité ou à la peine de mort, sans individualisation de la peine, c'est-à-dire sans essayer de savoir ce que la personne a pu faire exactement, hormis le fait qu'elle a rejoint Daesh, ce qui est suffisant pour la condamner. Donc ça, c'est le premier problème. Le second, je passe vite, c'est quand même l'application de la peine de mort.
Alors justement, on va y revenir parce que c'est un élément extrêmement important dans le débat actuel. Mais sur cette question, effectivement, des procès équitables, comme vous le disiez, Jean-Yves Le Drian, donc ministre des Affaires étrangères, lui a dit ce sont des procès équitables. Il y a eu un communiqué du Quai d'Orsay qui dit ceci. La position de la France, telle que définie par le président de la République, est que les adultes détenus en Irak doivent être jugés par la justice irakienne dès lors qu'elle se déclare compétente. Est-ce qu'il n'y a aucun doute autour de cette table, on a entendu ce que disait Patrick Baudouin, sur le fait que ce ne sont pas des procès équitables auxquels sont soumis aujourd'hui les combattants étrangers, notamment français, qui sont jugés en Irak? Antoine Mégy, pardonnez-moi.
Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que ces procès ne soient pas équitables. Il y a un travail qui est fait de fond par des journalistes, récemment Edith Bouvier, Céline Martelet, qui sont dans ces audiences. Il y a d'autres journalistes qui ont fait des audiences précédemment. Elles sont là aussi pour raconter ce qui se passe et il est évident que ces procès ne sont pas équitables. Et là, on a un paradoxe fondamental entre ce que les acteurs du judiciaire tentent de mettre en place en France, en ayant justement maintenu une forme d'open justice, puisque c'est la manière un peu dans les conventions européennes des droits de l'homme dont on parle du procès équitable, c'est-à-dire qu'en France, au moment des attentats, on a réussi avec l'accord des acteurs du judiciaire à maintenir cette forme de procès équitable, des procès publics, des procès où justement les procédures sont relativement respectées dans le cadre des procédures exceptionnelles de l'antiterrorisme. Et finalement, on voit très bien comment le politique, par des décisions diplomatiques, va finalement mettre en place un système parallèle qui, lui, est un véritable système d'exception extérieur, avec là véritablement la reconnaissance d'un dispositif qui ne rentre pas dans nos engagements en tant que Français, en tant que membre de l'Union européenne vis-à-vis de la Convention européenne des droits de l'homme.
Muriel Ubeda-Sayar, est-ce que vous partagez ce diagnostic? Est-ce que le droit international ne fournit pas des outils pour contester la légalité de ces procès s'ils ne sont pas équitables et puisqu'ils concernent des personnes qui ne sont pas de nationalité irakienne, mais pour un certain nombre qui sont européens?
Mais quand vous parlez de contestation, contestation par qui en fait?
Alors c'est ma question.
Est-ce que vous parlez par exemple de la contestation des condamnés qui iraient contester leur jugement et devant qui?
Devant la
Cour européenne des droits de l'homme par exemple. Je crois qu'ici on est tous d'accord pour dire que évidemment le droit international impose le procès équitable. Encore que je nuancerais, mais ce n'est pas une nuance, c'est une nuance sur ce qui vient d'être dit, c'est une nuance plus générale. Je nuancerais peut-être en disant que la conception du procès équitable, elle varie quand même beaucoup selon le forum juridictionnel. Moi j'ai beaucoup travaillé sur le procès procès équitable devant la Cour pénale internationale, qui n'a pas le même standard que le procès équitable devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, vous voyez, déjà, pour des juridictions qui ont des hautes exigences de procès équitable, il peut y avoir des variations. Donc, bien évidemment, devant le tribunal irakien, le procès équitable est conçu différemment. J'ai regardé un petit peu les arguments de la diplomatie française. Hein. On nous explique que, par exemple, les détenus ont droit à l'assistance consulaire, donc ont droit à une aide pour préparer leur défense, qu'il y a une structuration de la juridiction irakienne selon des principes de division entre parquet, magistrat du siège, greffe, etc. Donc, bon, c'est le rudiment du fonctionnement d'une juridiction, en fait. Hein. Et donc, tout dépend après l'exigence qu'on a du procès équitable. Après, en ce qui concerne les allégations de torture contre les prévenus, évidemment, ça, c'est de la violation pure et simple du droit au procès équitable.
Alors, justement, s'agissant de l'assistance consulaire, c'est ce qu'explique la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Avant de vous faire intervenir à nouveau, Patrick Baudouin, je voudrais vous faire écouter ce qu'elle disait. C'était le 2 juin dernier, soit avant-hier, je pense, sur CNews.
La position de la France, elle a toujours été constante de ce point de vue-là. D'abord sur le sujet de la peine de mort. Dès lors que nos concitoyens à travers le monde, c'est aussi le cas dans d'autres pays du monde, hein, pas uniquement en Irak, sont après une condamnation potentiellement soumis à la peine de mort, nous intervenons au plus haut niveau de l'État. Ils ont des procès. Aujourd'hui, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a eu l'occasion de le dire à l'Assemblée nationale en répondant à une question au gouvernement. La justice irakienne se fait dans de bonnes conditions, avec une défense qui est présente, et y compris
par beaucoup d'associations, et par les avocats eux-mêmes qui tentent de se rendre en Irak.
Qu'il puisse y avoir un débat, ça je l'entends. Moi, ce que je vous dis, c'est que les Français qui sont, je le rappelle, des gens qui ont quitté leur pays pour prendre les armes contre ce pays à travers des actions terroristes. Il faut quand même toujours rappeler de quoi on parle. Ces Français-là, ils ont le droit, comme les autres, à la protection consulaire. Et donc, ils sont accompagnés sur place par notre ambassade, y compris pour avoir une bonne connaissance du droit irakien et une bonne connaissance de leurs propres droits dans cet environnement juridique-là.
Est-ce qu'on ne peut pas faire confiance, Patrick Baudouin, à ces engagements de la France de porter assistance à ses propres ressortissants, peut-être par exemple en les aidant faire appel de leur condamnation, ou bien est-ce que ça vous semble des propos qui ne seront pas suivis d'effet ?
Je crois que c'est surtout une réponse parfaitement hypocrite. Enfin, l'assistance consulaire, autant dire que c'est presque rien. Tous les journalistes qui sont là-bas nous disent qu'il y a effectivement un représentant du consulat qui est aux audiences, qui ne dit rien, qui ne peut rien dire, qui ne peut pas agir. Alors c'est mieux que rien, mais ça ne sert à rien. Il faut quand même le dire haut et fort. Ce qui est important, c'est que les normes minimum du droit au procès équitable, quels que soient les standards, ne sont pas respectés et sont totalement bafoués, outre l'application de la peine de mort. Alors, pourquoi revenir, avant peut-être d'aborder la question d'une juridiction ad hoc, disons spéciale, internationale, pourquoi revenir à la compétence française ? La compétence française, parce qu'elle est réelle, juridiquement, du fait que ce sont des ressortissants français, la justice française est compétente. Beaucoup de ces ressortissants qui sont aujourd'hui accusés, qui sont poursuivis, sont déjà dans le collimateur des juges antiterroristes français, avec parfois des mandats d'arrêt internationaux qui ont d'ailleurs été délivrés. Et ce qu'il faut souligner, c'est que la justice française est pleinement, elle, qualifiée et compétente, avec un pôle antiterroriste et avec un pôle crime contre l'humanité. Or, ce qui nous paraît important, c'est pas seulement de qualifier d'actes terroristes ces actes-là. Ce sont des crimes contre l'humanité. Quand on voit, par exemple, le sort qui a été réservé aux femmes yézidis, et puis beaucoup d'autres, tous les massacres, tous les actes de barbarie, c'est du crime contre l'humanité. Et c'est là-dessus aussi qu'il faudrait juger, pour qu'il puisse y avoir des preuves, des témoins, et, cela a été souligné, des victimes qu'on donne un peu de chair, qu'on donne une consistance, et ça pourrait profiter en termes d'efficacité pour mieux connaître ce qui s'est passé. Voilà, et ça, on peut le faire en France.
On verra justement dans un instant si cette incrimination de crime contre l'humanité peut permettre peut-être de trouver une issue juridique au cas de ces combattants étrangers. Mais est-ce que vous ne croyez pas, Patrick Baudouin, que la question qui est posée, c'est pas celle de la compétence des tribunaux français? On sait bien qu'ils sont en mesure de juger ces personnes, mais c'est plutôt la dangerosité de ces combattants, dangerosité en prison quand ils vont être incarcérés et dangerosité le jour où ils ressortiront. Parce que c'est bien pour des questions politiques avant tout que ces personnes-là ne sont pas rapatriées en France.
Vous avez parfaitement raison de souligner que on est dans le domaine pas seulement judiciaire, on est dans un domaine éminemment politique. En réalité, le comportement tout à fait fluctuant des autorités françaises tient au fait que l'opinion publique, on le sait, à 80 ou 85%, n'est pas favorable au retour de ces djihadistes. D'abord parce qu'on dit ils ont fait la guerre contre nous, ils ont commis des actes barbares, ils sont partis là-bas, qu'ils y restent. Et ensuite, il y a la crainte, vous avez raison aussi, de leur réinsertion. C'est-à-dire, s'ils reviennent en France, ils seront jugés, ils seront condamnés à des lourdes peines. Il n'y a pas de raison, bien sûr, pour les actes graves qu'ils ont commis, mais ils ressortiront un jour. Mais s'ils restent en Irak, outre évidemment la peine de mort si elle est appliquée, ça il est certain que là on les extermine de manière définitive. Mais sinon, dans un pays qui reste instable, dans un pays où les alliances sont diverses, où on ne sait pas très bien qui commande à qui, il n'est pas exclu qu'on ne soit pas plus en sécurité pour nous, occidentaux, disons, en raisonnant en termes dénués là, de tout rapport à la morale ou à la justice, qu'on ne soit pas plus en situation de dangerosité en les laissant exécuter ou en les laissant susceptibles de sortir de prison sur place. Et puis je crois que tout ça, c'est donner raison aux terroristes que de renier nos valeurs. C'est finalement favoriser leur combat. C'est ça qu'il faut essayer de dire d'un point de vue pédagogique.
Muriel Ubeda-Sayar.
Oui, non, je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport à ce mythe complotiste de la cinquième colonne, hein, finalement, hein, qui reviendrait avec le rapatriement des terroristes. Il y a aussi quand même une propagande, hein, de l'État islamique qui alimente en fait, hein, les craintes de l'opinion publique. C'est 82% effectivement, hein, d'après le dernier sondage, de la population française qui serait opposée au retour des terroristes, mais des présumés terroristes, pardon. Mais voilà, il y aurait une volonté politique de l'État islamique, en fait, de favoriser ce rapatriement. Et il y a 2-3 jours, je crois, il y a un Syrien qui a été arrêté à Madrid, justement, et accusé de financer, en fait, ce retour sur ordre de l'État islamique, ce retour de combattants. Donc, il y a quand même une crainte pour l'ordre public qui est réelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on laisse faire, bien sûr, mais il y a de vraies raisons de s'inquiéter.
Et peut-être aussi une acceptation de la part d'une partie de l'opinion publique, Antoine Mégy, par rapport à cette question de la peine capitale, non pas forcément pour la rétablir en France, mais pour accepter qu'elle puisse être appliquée dans un autre pays à l'égard de ces combattants qui ont notamment combattu, si ce n'est directement, mais indirectement, les intérêts français.
Alors c'est là où, effectivement, il y a une singularité dans ce qu'on appelle le terrorisme. C'est que derrière ce terme de terrorisme, on y associe le terme de terroriste. Mais c'est quoi un terroriste ? Et c'est aussi toute l'ambiguïté de ce qu'est un terroriste. Les personnes qui sont aujourd'hui jugées en Irak, elles le sont pas parce qu'elles sont les plus dangereuses, on n'en sait rien d'ailleurs. Elles le sont parce qu'elles ont été attrapées dans le cadre de conflits avec les forces kurdes, et que dans ce cadre de prisonniers kurdes, il y a eu un accord avec l'Irak. Par contre, ceux qui sont rentrés, qui ont été attrapés en Turquie, eux, avec l'accord entre la France et la Turquie, ils sont envoyés directement en France et ils sont judiciarisés automatiquement et ils sont jugés au tribunal correctionnel de Paris, voire en cour d'assises spécialement composée. On a à peu près une cinquantaine de procès qui se préparent en cour d'assises spécialement composée l'année prochaine pour des revenants et des revenantes. Les personnes qui sont jugées dans les 11 personnes condamnées à mort, il y a des gens que j'ai pu voir juger en France en leur absence. D'ailleurs que c'est des gens qui ont déjà été jugés. Il y a 2 personnes qui ont déjà été jugées en France, condamnées en France, pour une participation à un groupe terroriste, à savoir Daesh. Et on les rejuge de nouveau. Donc là, il y a aussi la question du principe du non bis in idem. Est-ce qu'on peut être jugé 2 fois de la même manière dans 2 pays différents pour la même infraction ? Donc, on voit qu'il y a, en outre, des raisons en plus derrière cette idée que finalement on a affaire à des ennemis de la France. Et c'est bien ça la spécificité. Je voudrais juste revenir sur un point en 2 mots. Je pense que les effets, outre ces effets juridiques, les effets politiques sont extrêmement importants. Les déclarations qui sont faites aujourd'hui par les membres du gouvernement construisent un discours d'action et réaction de la propagande. C'est-à-dire que face à un discours tel que celui de « nous les respectons parce qu'ils sont jugés en Irak, mais ce sont des ennemis, nous les laissons là-bas », ça va être très très facile, et on le voit déjà, et on l'observe déjà, que la propagande de Daesh se saisisse de cela pour dire « Regardez, nous sommes bien dans cette guerre entre d'un côté des démocraties qui n'en sont plus, et de l'autre, nous qui vous proposons un autre système ».
Alors, quid, justement, d'une juridiction qui serait peut-être davantage légitime parce que internationale, comme on a pu le voir, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, après la guerre en ex-Yougoslavie ou après le génocide au Rwanda. Il y avait donc hier à Stockholm une réunion internationale avec 11 pays de l'Union européenne plus la Suisse, semble-t-il, en vue de réfléchir à la création d'un tel tribunal. Muriel Ubeda-Sayar, alors déjà, je crois que vous avez pris quelques renseignements pour savoir ce qui s'y était dit.
Je crois qu'il s'était dit... En tout cas, il n'y a pas eu d'accord visiblement ferme sur la question.
Voilà, l'idée, c'est que c'est quelque chose qui va mûrir lentement.
Oui, alors après, quand on voit le positionnement déjà, parce que je crois qu'ici, voilà, on sait que le facteur politique est prédominant. Quand on voit le positionnement politique des 5 États membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans la même configuration de celle qui existait dans les années 90, quand on a créé les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Où là, il y avait quand même un accord hein, des cinq permanents qui ont le droit de veto, hein, je le rappelle, pour les décisions adoptées par le Conseil. Donc là, en fait, il y a trois cas de figure. Premier cas de figure, le Conseil de sécurité décide de créer un tribunal pénal à la manière ex-Yougoslavie. Et ça, pour l'instant, politiquement, je ne vois pas comment ça serait envisageable, hein, surtout compte tenu des déclarations du président Trump de février, hein, qui souhaite le rapatriement dans les États européens.
Politiquement, mais pas juridiquement. Juridiquement, c'est tout à fait faisable.
Juridiquement, c'est tout à fait faisable, même si...
Même sans avoir une définition... Alors, plus précise de ce qu'est le terrorisme.
Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de convention internationale globale qui définit le terrorisme. En revanche, il y a tout un tas de conventions internationales sectorielles hein, et puis il y a surtout le régime juridique que le Conseil de sécurité a développé depuis 2001 sur la base du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Il y a une somme impressionnante de résolutions hein, et donc si c'est le Conseil de sécurité lui-même qui crée une juridiction ad hoc, on peut imaginer qu'au niveau du droit matériel, il pourrait évidemment s'inspirer de ce régime. En revanche, au niveau de la compétence personnelle de ce tribunal, il me semble que ça serait compliqué. Ça serait quand même compliqué de créer un tribunal pénal international ou internationalisé, c'est la deuxième hypothèse, uniquement pour les présumés terroristes issus des États européens. Je vois pas comment, juridiquement, on pourrait justifier cela.
Et du coup, il y a une troisième hypothèse qui est peut-être plus crédible pour vous ?
Je pense qu'il y a trois hypothèses. Il y aurait l'hypothèse de la Cour pénale internationale, mais celle-là, on peut l'exclure tout de suite. La Cour n'est pas compétente pour juger le crime de terrorisme, même si, dans deux décisions, elle a expliqué que le crime contre le terrorisme, et ça apporte de l'eau au moulin de M. Baudouin, le crime de terrorisme pouvait être jugé à l'aune du crime contre l'humanité. Donc ça, elle l'a bien analysé. Mais la troisième hypothèse est sans doute la plus probable, la plus souhaitable. Ça serait de créer un tribunal internationalisé, comme on l'a déjà fait. C'est-à-dire un tribunal dans un état du territoire proche, par exemple l'Irak évidemment, des crimes commis, avec donc une facilité d'accès aux preuves et aux accusés, mais avec les garanties internationales, les plus hauts standards de respect du procès équitable, droits de l'homme, etc. Mais pour cela, il faut deux choses. Il faut le consentement de l'État irakien. Et ça, je ne sais pas si aujourd'hui on peut dire que politiquement l'Irak serait prêt à ça. Et une deuxième chose, c'est quand même un engagement des Nations Unies, à minima. Et on retombe donc sur les divergences politiques des États membres du Conseil de sécurité.
Patrick Baudouin.
Oui, je dois dire que je ne suis pas du tout hostile à la perspective de création d'un tel tribunal, mais je suis quand même extrêmement réservé. Réservé d'abord parce que ça prendra du temps si jamais on s'engage dans cette voie. Or, il y a une relative urgence à juger. Puis, il y a des procès qui sont en cours, on le voit. Donc, il y a une nécessité d'action rapide. Donc, je reviens à ce qui est un peu mon leitmotiv, c'est-à-dire que je pense qu'il faut essayer d'obtenir qu'il y ait des procès dans les États démocratiques, Allemagne, France, Grande-Bretagne, dont sont issus les ressortissants qui sont partis faire le djihad. Je crois que ça, c'est quelque chose de concret qui peut être mis en œuvre avec une volonté politique qui n'est pas, on l'a bien compris, celle de la France aujourd'hui. Mais il faut peut-être faire bouger les lignes. Maintenant, sur un tribunal international, moi, ce qui me gêne beaucoup, ça a été évoqué à l'instant, c'est déjà la compétence. Il sera compétent pour qui ? Il sera compétent pour quoi ? S'il est compétent sur le terrorisme, il n'y a pas de convention internationale sur le terrorisme, ça pose un problème. À mon avis, il faudrait qu'il le soit sur la notion de crime contre l'humanité, parce que là, justement...
C'est la Cour pénale internationale, dans ce cas-là ?
Non, parce qu'elle n'est pas compétente, mais ça peut être crime contre l'humanité. On a vu créer dans le passé des juridictions qu'on qualifiait d'ad hoc, par exemple sur le Rwanda, sur l'ex-Yougoslavie, sur le Cambodge, etc. Et puis, l'autre problème, moi, qui me paraît quand même aussi préoccupant, c'est que on risque d'être sur une poursuite des crimes, on va simplifier, de Daesh, et on va laisser de côté les crimes commis par l'État syrien, qui sont, on ne va pas créer une hiérarchie là de la barbarie, mais c'est une barbarie semblable, équivalente, aussi grave, et peut-être même avec un nombre de victimes plus important. Et déjà, on voit très bien dans le cadre des relations internationales à quel point la Syrie aujourd'hui est en train, j'utilise une expression un peu vulgaire, de bien s'en tirer. Et là, il y aurait une juridiction spéciale pour les crimes de Daesh et puis la Syrie, rien du tout. Non, moi je crois qu'il faudrait à ce moment-là envisager vraiment une juridiction à compétence plus globale. Alors ça pose, je termine juste, ça pose beaucoup de problèmes. Est-ce que ça serait une juridiction hybride avec des juges nationaux et des juges d'État différents? Où siégerait-elle? Quelle serait sa composition, ses modalités d'action? Ce n'est pas impossible. Ça peut être créé avec les Nations Unies. Le Conseil de sécurité, à mon avis, là, il n'y aurait pas de veto si c'est simplement Daesh. Mais si on va plus loin, il y aurait peut-être pas le veto.
La Russie est favorable au rapatriement, les États-Unis aussi.
Oui. Ça pourrait peut-être être surmonté.
Et puis ça a un coût, la juridictionnalisation internationale. Le problème, il est là aussi.
Si vous élargissez à la Syrie, en tout cas, c'est sûr que la Russie et la Chine vont mettre leur veto. Antoine Mégy.
Je trouve que cette remarque sur la capacité à produire un droit international entre les enjeux politiques, elle est extrêmement importante parce que c'est ça qui va déclencher ou non cette capacité à trouver une solution. Mais après, il y a aussi une réalité très judiciaire. Quels sont les dossiers sur lesquels on juge ces personnes? Est-ce que quelqu'un comme les frères Klein peuvent être jugés de la même manière qu'une personne qui est arrivée il y a un an et demi en Syrie, qui n'a pas forcément combattu, ou est-ce que les femmes vont être jugées? Et en fait, c'est la réalité.
C'est à l'appréciation des juges,
bien sûr, mais c'est aussi la construction des dossiers qu'on en fait. Les juges, ils ont les dossiers qu'on leur fournit à travers des preuves, à travers des éléments d'enquête. Or, ces éléments d'enquête, on voit bien qu'ils sont très ténus parfois. Et donc, il y a aussi une réalité de comment on construit cette justice par rapport à des éléments qu'on n'a pas forcément, par rapport à des éléments qui sont aussi de l'ordre du renseignement, et donc qu'on ne diffuse pas publiquement dans le cadre d'une procédure, parce qu'il y a aussi des enjeux de sécurité, il y a aussi des données sur ces filières, ces personnes qui sont revenues en France pour certaines parce qu'elles avaient beaucoup d'informations et qu'elles étaient, entre guillemets, des personnes importantes pour le renseignement, et d'autres qu'on a laissées dans des camps parce que considérait que c'était finalement des seconds couteaux. C'est notamment le cas de beaucoup de femmes qu'on a laissées dans les camps avec les enfants, et ça c'est aussi un autre problème, parce qu'aujourd'hui le débat il se porte sur ces hommes qui sont à peu près l'image parfaite de l'ennemi. Mais lorsqu'on parle des enfants et lorsqu'on parle des femmes, le gouvernement a la même réponse. Ce sont aussi presque des ennemis. C'est-à-dire que la gestion des enfants se fait de la même manière, au cas par cas, malgré des mobilisations, malgré l'accueil de plus d'une quarantaine, cinquantaine d'enfants déjà. On a rapatrié officiellement, je crois, entre 3 et 5 enfants. Depuis quelques semaines, quelques mois, parce qu'il y avait une forme d'intransigeance du gouvernement qui, pour autant, avait mis en place, et ça a été diffusé par les médias, tout un plan d'accueil de ces femmes et de ces enfants et de ces hommes qui n'a pas été mis en exécution parce qu'il y a eu la décision politique, finalement, d'aller dans le sens de ce qu'on créerait comme une opinion publique.
Marielle Bézassayard.
Oui, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je crois aussi qu'il faut s'interroger sur quel est le meilleur forum juridictionnel pour les victimes, toujours elles, hein, puisque finalement c'est quand même elles qui doivent nous préoccuper. Et alors là, pour le coup, on ne peut apporter que des réponses mesurées, partagées, parce que si on parle par exemple de la population yézidi, est-ce que en jugeant les auteurs des infractions en France, par exemple, on ne va pas priver cette population, un petit peu comme, vous savez, c'est le débat sur les veuves de Srebrenica, on ne va pas priver cette population de son plein droit à réparation, puisque les procès se tiendront loin, dans une langue qu'elle ne comprend pas, selon un système juridique qu'elle ne maîtrise pas, etc. C'est le même problème que celui qui sous-tend la compétence universelle. Est-ce qu'on doit juger sur le territoire des crimes, ou est-ce qu'on doit juger pour une meilleure qualification pénale, et donc ici par exemple le crime contre l'humanité, dont effectivement le pôle des crimes contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris pourrait connaître, mais dans ce cas, on aurait un procès qui serait éloigné géographiquement des victimes. Donc, tout dépend encore une fois, de quelle victime on parle. Et c'est pour ça que la réponse n'est pas simple. Et je crois qu'en fait, tout ce qui nous anime ici, c'est la question de la motivation de la création de ce tribunal spécial. Est-ce qu'on le crée pour des raisons conjoncturelles, à savoir, on ne veut pas le rapatriement des 450 présumés terroristes qui sont détenus dans le nord-est de la Syrie par les Kurdes, ou est-ce qu'on le crée pour des raisons vraiment de principe, à savoir, effectivement, on veut juger pour crime de terrorisme, mais aussi pour crime contre l'humanité, et on estime que les infractions commises par l'État islamique ont une telle spécificité qu'elles méritent un tribunal spécial, un peu comme finalement, en ex-Yougoslavie, il fallait créer un tribunal spécial.
Et donc, justement, qu'est-ce que l'histoire nous enseigne de ces tribunaux ad hoc qui ont été faits, qui mériteraient peut-être de s'en inspirer? Bien sûr, on ne peut pas dupliquer les situations, elles n'ont évidemment rien à voir, mais en tout cas, est-ce que c'est cette forme-là qui paraît la plus à même de répondre peut-être à cette question de dire bah, ce sont d'abord les victimes de terrorisme qui ont besoin de ces procès.
Je crois que l'histoire des tribunaux pénaux internationaux et l'histoire de la Cour aujourd'hui nous enseigne l'humilité à nous les juristes. L'humilité et surtout le fait de ne pas trop étendre le rôle du juge pénal. Chacun doit garder ses responsabilités, j'en parlais tout à l'heure en aparté. On ne peut pas par exemple dénoncer un échec du tribunal pour l'ex-Yougoslavie au regard des conditions aujourd'hui de vie des populations locales qui n'auraient pas été suffisamment réconciliées. Le juge pénal ne fait que juger et ne fait que mener à bien un procès pénal. Alors ça participe à la réconciliation nationale, ça participe à la satisfaction des victimes, à la réhabilitation des condamnés ayant purgé leur peine, etc. etc. On connaît la théorie du procès pénal, mais ça ne peut pas garantir le retour à la paix, le retour à l'harmonie, le sentiment de vivre ensemble. Voilà. Les responsables politiques aussi doivent prendre leur part ici.
La vraie bonne question, en tout cas, effectivement, à poser Patrick Baudouin et Antoine Mégy, c'est pourquoi ces procès? C'est-à-dire, quel est le but principal qui est recherché à travers le procès de ces terroristes? Mais cela dit, c'est sans doute une question qui se pose finalement quotidiennement à la justice, quelles que soient les affaires.
Non, je crois que la première réponse, je ne sais pas, c'est la lutte contre l'impunité. C'est ne pas permettre qu'il y ait l'impunité. C'est le fondement de toutes les justices, et en particulier le fondement des juridictions internationales. Elles ont été créées parce que, dans certains pays, on ne voulait pas ou on ne pouvait pas juger les crimes les plus graves. Alors, moi, je crois que la création d'une juridiction internationale spéciale est opportune quand, précisément, il n'y a pas d'autre façon de juger, donc de lutter contre l'impunité et aussi de donner réparation et justice aux victimes. Bon, ça a été le cas pour l'ex-Yougoslavie, ça a été le cas pour le Rwanda, avec les insuffisances qu'on peut toujours relever et qu'on relèvera toujours parce que on n'est pas à la veille d'une justice internationale absolument irréprochable compte tenu des implications politiques et des difficultés pratiques qui sont réelles. Et là, la question qu'on peut se poser pour, puisque c'est le sujet, sur l'Irak, la Syrie, les crimes qui ont pu être commis, c'est est-ce qu'il y a une autre façon de juger, alors que l'on sait que créer une juridiction internationale pose des problèmes très complexes. Ça ne veut pas dire insolubles, mais moi j'ai peur que, par exemple, le gouvernement français utilise aujourd'hui cet argument de la création éventuelle d'un tribunal international pour se défausser de ses responsabilités et dire, bon, ben, on va laisser passer la vague, là, les exécutions, tout ça, ça fait un peu de bruit, on va essayer de donner autre chose. Vous avez évoqué tout à l'heure les yézidis, juste cet exemple très concret. Il se trouve que j'ai travaillé beaucoup sur ce dossier avec la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Nous avons fait une mission d'enquête. Nous avons rassemblé des témoignages de ces femmes yézidis qui ont connu l'horreur la plus absolue. Certaines d'entre elles sont en Turquie, sont au Canada, sont en Australie. Il y a, je ne vais pas aller plus loin parce que ça relève là actuellement des poursuites du parquet, justement, crime contre l'humanité. Il y a de la part de la justice française une volonté d'aller plus loin. On a pu répertorier des djihadistes d'origine française qui ont été reconnus par l'usage de leur langue, par ces femmes qui aujourd'hui donc sont dans des territoires à l'abri, hein, et qui pourraient venir témoigner. Autrement dit, on peut matériellement faire un procès en France sur ce cas précis. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'on jugera d'une façon massive, mais ça sera quand même une valeur exemplaire. Et je pense que c'est essentiel et que c'est quelque chose de concret et de réalisable dans un délai raisonnable.
La garde des Sceaux aujourd'hui, Nicole Belloubet, toujours à propos de cette hypothèse d'un un tribunal spécifique pour juger des combattants terroristes de l'État islamique, dit que la France réfléchit à la mise sur pied d'un tribunal spécifique. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse. Ça va prendre du temps, évidemment, si ça se met en place. Tout à l'heure, Patrick Baudouin disait... En même temps, on est confronté à une urgence, puisque de manière, il y a des cas qui sont jugés aujourd'hui. Mais c'est toujours la difficulté quand on met en place ce genre d'instance, c'est que de se donner peut-être le temps, un temps qu'on n'a pas quand on est dans des affaires de terrorisme, Antoine Léger.
Je pense que c'est se donner un temps politique et diplomatique de proposer de cette manière-là une réflexion. Après, le quotidien des magistrats du pôle antiterroriste, des avocats de la conférence du stage ou des juges du tribunal correctionnel de Paris, c'est des jugements quotidiens. C'est des jugements quotidiens pour des affaires qui sont les mêmes que celles jugé en Irak. Donc finalement, il y a aussi une forme de décalage entre le discours politique et une réalité du pouvoir judiciaire qui, depuis 2015, n'a jamais autant poursuivi, condamné et mis en prison des personnes, des hommes, puis des femmes à partir de 2016, pour participation à un groupe terroriste. Donc ces procès, en fait, ils existent déjà. Ils existent déjà, et effectivement, il y a souvent une chose qui est absente de ces procès à la 16e chambre correctionnelle, c'est les victimes. On ne les a pas. Parce que ces victimes, elles sont loin, et parce qu'on n'a pas la volonté de créer, finalement, cependant, des parties civiles dans ces procès. Mais ces procès, en fait, ils existent. Et encore une fois, les gens qui sont jugés en Irak aujourd'hui ont déjà été jugés en France.
Mais c'est sans doute un peu cynique, mais si je vous dis finalement pas de chance pour eux, ils se sont fait attraper en Syrie, ils ont été envoyés en Irak, ils auraient pu être jugés en France, c'est comme ça. Mais...
L'enjeu, c'est aussi de savoir comment nous, on peut se construire aussi par rapport à cette violence et comment on peut essayer de juger tout en construisant l'avenir. C'est ça aussi l'enjeu du politique et le courage politique.
Muriel Ubeda-Sayar.
Du coup, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Oui, le terrorisme, s'il perturbe autant les systèmes des états de droit, c'est bien parce qu'il s'agit d'une violence fondatrice et elle est tellement subversive, en fait, pour les systèmes juridiques que on voit bien comment, y compris les états de droit les plus anciens, cèdent à ce qu'on appelle l'exceptionnalisation des droits. Vous avez parlé du droit pénal de l'ennemi, bien sûr, des dérogations de plus en plus nombreuses. Et je crois
ça
quand
fait
même
plutôt qu'il... reculer le droit que ça ne le fait avancer.
En tout cas, ça le rend dérogatoire dans beaucoup de circonstances. Après, peut-être juste un élément de nuance. Les procès en France, on les présente évidemment de manière en opposition avec les procès qui se déroulent en Irak et sans doute que c'est le jour et la nuit. Mais les procès en France traduisent aussi des condamnations dures et ça n'est pas un avenir meilleur pour les présumés terroristes, si ce n'est évidemment la peine capitale et le traitement dans les établissements pénitentiaire, évidemment.
Nuance,
évidemment.
C'est important.
Mais juste pour rebondir sur les propos de la ministre, dernière seconde, je crois qu'il faut quand même bien distinguer ce qu'on entend par tribunal international. Est-ce qu'on veut créer un tribunal international, véritablement international, auquel cas ça prendra du temps? Mais le décalage que vous avez mentionné entre les crimes commis et la création d'un tribunal, il est inhérent à cette entreprise. Ça a toujours été comme ça. Ou est-ce qu'on crée un tribunal internationalisé, c'est-à-dire on aide les juridictions irakiennes en les aidant à reformater leurs droits et éventuellement en envoyant des juges européens sur place? Est-ce qu'on les aide à mieux juger, sachant qu'il faut pour ça le consentement de l'Irak?
Voilà, et puis que ça peut être aussi soumis à une accusation d'ingérence. Enfin, tout ça est évidemment très compliqué. Merci en tout cas d'avoir mis beaucoup de clarté dans ces questions. Merci à vous trois, Patrick Baudouin, Muriel Ubeda-Sayar et Antoine Mégy. Vous pourrez bien sûr réécouter comme chaque soir cette émission en vous rendant sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain. Antoine Tricot, Fanny Richet, Virginie Leduo, Antoine Dulcer, Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyrey Legras avec à la prise de son ce soir Jean-Guilain Meige.